Pascal Bresson, bonjour et bienvenue dans les murmures de l'info sur Shalom Bourgogne.
Bonjour.
Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes un artiste incontournable de la bande dessinée, scénariste, illustrateur et auteur de livres pour la jeunesse. Vous êtes passionné par le dessin depuis votre enfance. Deux rencontres ont jalonné votre parcours, celle de Thibé, le dessinateur de Ricochet, puis celle de René Follet, illustrateur de BD belge. Avec plus de 40 ouvrages à votre actif, vous vous illustrez depuis plusieurs années dans la défense des valeurs universelles humanistes. Vos récits ancrés dans des thématiques telles que l'injustice, le racisme, l'antisémitisme, le handicap et les enjeux environnementaux portent un regard lucide et engagé sur le monde qui vous entoure. Vos derniers romans graphiques tels que Elle s'appelait Sarah, Simone Veil l'immortelle, Béate et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli, et dernièrement, la rafle 10 yeux parue en mars 2024 témoigne de votre désir de transmettre aux jeunes générations l'importance du devoir et du travail de mémoire. Vous êtes un auteur humaniste et engagé, véhiculant à travers vos œuvres un message de paix et de tolérance. Récompensé à plusieurs reprises, vous avez été distingué en 2022 en tant que chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'explorer ensemble votre roman graphique sur l'histoire de Viktor Frankl, est sous-titré Un héritage pour l'humanité, coécrit avec Jérôme Héaud et paru aux éditions Hugo BD en novembre 2023. Pascal Bresson, comment avez-vous choisi de travailler sur l'histoire de Viktor Frankl?
Ben en tout cas, un grand merci, Aurore, pour ce préambule. Eh bien, en fait, c'est arrivé au moment du confinement. C'est assez troublant parce que j'ai toujours détesté la philosophie. Et en fait, je m'y suis mis. J'ai commandé tout plein de livres philosophiques. J'en ai lu un paquet. Et puis, il y a surtout un livre qui est sorti, qui m'a beaucoup intéressé. C'était le livre Vivre de Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir, c'est un grand monsieur que j'ai la chance de connaître. Et quand j'ai lu son livre, franchement, sur deux lignes, il parle de Viktor Frankl. Viktor Frankl, juif autrichien, déporté. Et moi qui traite énormément ce sujet, tout de suite, ça m'a, on va dire, interloqué. J'ai appelé Frédéric et je lui ai dit, voilà, Frédéric, qui est ce Viktor Frankl? On en a discuté pendant 1 heure. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse vraiment un bouquin, un ouvrage sur ce personnage. J'ai fait mes recherches. Alors, à l'époque, c'est vrai que Viktor Frankl était peu connu, beaucoup connu pourtant dans le monde entier, énormément aux États-Unis, forcément. J'ai trouvé deux ouvrages traduits en français et énormément de docs à l'étranger. Et après, bah, j'ai regroupé toute ma documentation et j'ai fait Viktor Frankl, le titre, bon sang, c'est Un héritage pour l'humanité. Et c'est vraiment un grand personnage et j'aime traiter le destin des grands personnages et il fait partie de ma collection.
Alors, pourquoi un destin pour l'humanité? Pouvez-vous nous parler de Viktor Frankl, peut-être sa vie, sa famille, son enfance?
Alors Viktor Frankl, alors c'est vraiment quelqu'un, enfin, comme je disais qu'il était pas trop connu en France, il devient d'ailleurs dans les facultés de psychiatrie, il commence à être étudié énormément. Pourquoi Frankl? Ben Frankl, déjà, il est né en 1900, il est né à Vienne, en Autriche, et là, ben, c'est surtout à l'âge de 16 ans qu'il découvre qu'il y a plusieurs courants de psychologie, comme Freud, comme Adler, comme Jung, et donc il va observer chaque courant. Alors son papa, évidemment, est de la partie, puisqu'il est médecin, et à 16 ans, il va surtout travailler de lui-même apporter, comme on dit, l'observation expérimentale, c'est-à-dire qu'il va observer les gens et à partir de là, il va en définir le tempérament, le caractère, et de ces expériences, il va les dessiner, parce qu'il dessine beaucoup, il les envoie à Freud, qui est son idole, et là, Freud, eh ben, il rentre en contact avec ce jeune garçon, et puis, ben, voilà, la grande aventure commence. On avance, évidemment, en 38, il devient le grand directeur de l'hôpital psychiatrique de Vienne. Le Troisième Reich arrive en Autriche. On lui demande à Viktor Frankl de donner des malades mentaux pour des premières expérimentations pour la solution finale, pour les gazages. Il s'y refuse et il se retrouve dans les camps pendant 3 ans et demi, quand même, avec toute sa famille, notamment sa femme qui y attend un bébé. Et toute sa famille sera assassinée. Lui, il va être dans ce camp, il va même aller à Auschwitz et à Auschwitz, il va observer chaque déporté, les faibles, les bien portants, et va en tirer une conclusion, c'est-à-dire que les bien portants, ceux qui mangent bien, meurent très vite, alors que les plus faibles ont beaucoup plus de chances de s'en sortir. Et à la Libération, il va écrire un livre où il va expliquer ce phénomène, sa théorie. C'est-à-dire que quand on donne un sens à sa vie, quand on espère quelque chose, quand on se dit, voilà, demain j'y arriverai. Par exemple, si je prends un cas, il y avait un déporté, lui disait, quand je sortirai de ce camp, je raconterai, je témoignerai. Et bien, quand on donne un sens à sa vie, on s'en sort, on peut affronter tous les problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé la logothérapie. Donc, c'est un grand humaniste, c'est une personne qui a pris beaucoup sur lui, il a été résilient, et puis surtout, il n'avait aucune haine contre ses ennemis. Et je pense que ça l'a aidé énormément.
Alors la logothérapie, ça vient, en tout cas logo, ça veut dire le sens en grec, et je crois que c'est ce que vous venez de décrire sur la philosophie de Viktor Frankl.
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme donne un sens à sa vie, il peut tout affronter. Pour lui, il partait du principe que quand on dominait sa souffrance, quand on dominait justement sa vie, comment dire, j'ai un mot qui vient pas, bon sang, mais ça viendra tout à l'heure, on pouvait tout affronter. Et c'est ce qu'il a fait dans les camps. Par exemple, il notait tout ce qu'il voyait, les comportements, les observations, il notait sur des petits morceaux de papier, sur ses manches. Et à un moment donné, lors d'une fouille, il perd tout. Et ben il s'est remémoré pendant plus d'un an et demi tout ce qu'il avait écrit, et c'est ce qui l'a aidé aussi à s'en sortir des camps. Et ça, je trouve ça formidable. J'avais un autre exemple aussi pour vous dire combien c'est important. Il y a un célèbre compositeur, un pianiste, alors je me souviens plus du nom, c'est un Allemand. Lui, il était à Bergen-Belsen, et il avait vécu pendant plus d'un an. Et lui, il a tenu dans ce camp en se disant, de toute façon, le jour où je sortirai, je jouerai de nouveau au piano. Et un jour, on lui casse les doigts. 10 minutes plus tard, il meurt. Parce qu'il avait compris qu'en lui cassant les doigts, il pouvait plus jouer. Donc, en fait, il s'est laissé aller. Et donc, justement, la logothérapie, donner un sens à sa vie, c'est justement aller au-delà de tout ça. Et donc, c'est une théorie, c'est une pratique, c'est aussi une analyse existentielle. Et pour ça, il a été très fort, notre ami Frankl.
Et je crois qu'il a réussi à enseigner aux États-Unis et
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a écrit un livre qui a été vendu à des millions, millions d'exemplaires. Il a commencé par les États-Unis, en Allemagne forcément. Et puis, ça a un petit peu fait son petit bonhomme de chemin, un petit peu partout dans le monde. Et là, maintenant, en France, on commence à voir de plus en plus de livres traduits, évidemment, en anglais. En France, il y a, je crois, à peu près 5 ou 6 livres sur Frankl maintenant, dont un qui s'appelle Donner un sens à sa vie, qui est formidable. Il faut vraiment le lire parce que c'est quelque chose qui donne de l'espoir, qui donne justement de l'humanité. C'était un grand humaniste, il n'en a jamais voulu à ses bourreaux. Pourtant, il a eu sa maman, il a vu son papa mourir, il a eu sa maman, son frère, il a eu quand même sa femme qui attendait un enfant. Donc, beaucoup de tristesse, et malgré tout ça, il a pu se reconstruire, passer outre et recréer une autre famille, et surtout créer la logothérapie et donner toute sa vie pour combattre la souffrance et la dépression.
Et alors, enfin, vous nous avez expliqué que vous avez lu beaucoup de livres. Combien de temps ça prend d'écrire un roman graphique de ce type?
Alors c'est très long parce que en plus Frankl est forcément c'est pas un personnage connu. J'ai fait Simone Veil, j'ai fait les Clairsfeld, donc ça va tout seul pour le coup. On connaît beaucoup leur histoire. Il a vraiment fallu que je fasse des recherches. Heureusement qu'il y a Internet, notamment aux États-Unis. J'ai pu retrouver des choses sur ses parents, sur lui. Donc il a fallu traduire. Alors c'est vrai que la traduction Google c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça m'a aidé. Après il a fallu trouver aussi des photos, de la documentation. Des reportages, des interviews. On trouve quand même assez d'interviews sur le personnage. Ça m'a pris 3 ans pour l'écriture. 3 ans. Donc, c'est de créer aussi son histoire. Le but, c'est que ce soit pas trop historique. Il faut qu'il y ait une histoire dans l'histoire, parce que la bande dessinée, il y a des codes, forcément. Il faut que ce soit passionnant. Et comme c'est un personnage peu connu du public, du grand public, il faut tout de suite que ce soit intéressant. Donc, avec les codes, c'est. Créer des petites situations avec Freud, puisque Freud est connu, créer des petites situations dans le contexte de 1938, quand les nazis arrivent à Vienne. Voilà, comme c'est un personnage qui avait beaucoup d'humour, j'ai joué aussi beaucoup sur des plaisanteries que j'ai pu retrouver, qu'il avait pu dire, sur une interview qu'il avait donnée en 72 à New York. Et puis après, surtout, le personnage est quand même mort, a vécu jusqu'à 95 ans, et il faisait de l'alpinisme. Donc, on a quand même beaucoup de documents sur lui, d'archives, à partir des années 70-80. Donc j'ai mis un peu plus de 3 ans pour faire cet album qui, je crois, comporte 144 pages.
Et avez-vous un passage préféré dans le livre?
Alors le passage préféré, oui, c'est le passage quand il sort du studio de télé. quand il y a un conducteur, un taxi qui vient le chercher. Et alors j'imagine la scène, alors il la raconte très vite, mais forcément quand on est scénariste, il faut raconter, c'est un peu comme au cinéma, il faut que ce soit visuel, avec des dialogues, hein, puisqu'il faut faire parler Frankel. Donc il est dans cette voiture, le conducteur est triste, on voit que son visage, il a quelques, les yeux sont rougis, puis Frankel lui dit, mais ça va pas mon ami, puis l'homme lui dit, bah, vous savez, j'ai perdu ma femme. Et là, Frankel, bah, tout de suite, il reprend sa position de professeur, de psychiatre, de psychologue et de neurologue. Il lui dit, mais vous savez, mettez-vous à la place de votre femme. Imaginez-vous que ce soit vous qui mouriez. Imaginez-vous la peine que votre femme aurait si c'était vous qui étiez mort. Et là, d'un coup, ça renverse le processus. Il dit, oui, effectivement, je lui ai évité toute la peine. Et en fait, voilà, il a rétabli la situation. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il lui a dit, voilà, si toi, tu étais décédé, c'est ta femme qui aurait de la peine. Or, forcément, tu as de la peine, mais tu lui as évité toute la peine. Et c'est ça qui est intéressant, parce que Frankl fonctionnait comme ça. Et puis aussi, un deuxième passage, c'est le passage avec le prêtre. Ce passage un petit peu, justement, spirituel. Parce qu'en fait, Frankl, il avait effectivement donné un sens à sa vie, mais c'était aussi une analyse, aussi une découverte spirituelle. Et ça, pour moi, c'est aussi important d'aborder la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est aussi de l'espoir. Par exemple, moi, j'habite ici à Saint-Malo. Je connais un vieux marin qui a été 40 ans sur Terre-Neuve. Il s'est retrouvé pendant 40 ans sur des tempêtes avec une mer déchaînée. Il croyait en rien, mais il avouait quand même que quand ça se passait mal, il avait toujours espoir qu'il y ait un Dieu quelque part. Donc, ça l'a beaucoup aidé à tenir. Donc, voilà, pour moi, il fallait que j'aborde ce sujet.
Alors, il est mentionné des traits d'humour et la combativité de Viktor Frankl dans ce roman graphique. Peut-être vous pouvez nous en parler.
Alors oui, alors en fait, il avait beaucoup d'humour, ah, puis il en fallait, parce que forcément, quand le Troisième Reich est arrivé, lui, bah, était juif, forcément, donc les juifs n'avaient plus le droit de travailler, n'avaient plus le droit d'avoir des loisirs, et lui, il s'en est sorti beaucoup avec l'humour, et même dans les camps, il y a un livre qu'il a raconté dans les camps, où il disait qu'il s'en était sorti avec l'humour, et même auprès de certains nazis, il plaisantait. Donc c'est vrai que de notre point de vue, on imagine mal les nazis rire, mais ça les faisait rire. Donc, voilà, Frankl avait beaucoup d'humour. C'était quelqu'un qui se prenait pas au sérieux. C'était quelqu'un de vivant. C'était un humaniste, un sacré personnage. J'aime bien aussi cette anecdote où il est en train de dédicacer son livre et puis un moine qui, avec sa bure de couleur noire, il dit, bah, moi, j'aime le café aussi noir que votre bure. Enfin, voilà, il avait toujours le dernier mot. C'était quelqu'un. On se serait bien entendu avec Frankl. Ça, je suis persuadé que j'aurais passé de bons moments. C'est quelqu'un de très agréable, de très tolérant, de très ouvert. Il n'oubliait pas cependant ce qu'il avait vécu, évidemment, et puis l'assassinat de sa famille, mais encore une fois, il passait outre. Et je pense qu'il avait vraiment abordé toute cette résilience dont on parle de plus en plus, notamment Bruce Sirilu, qui parle beaucoup de résilience. Ben, je pense que Frankl l'avait déjà depuis très très longtemps. Je pense que même quand on voit et quand on lit les livres de Bruce Sirilu, on s'aperçoit qu'il s'est beaucoup basé sur Frankl. En fin de compte, il n'a rien amené. Frankl a vraiment tout créé.
Pascal, vous utilisez un code couleur dans votre livre sur Viktor Frankl, similaire à celui que vous avez utilisé dans votre livre sur Simone Veil. Pouvez-vous nous décrire ce code couleur? Comment il fonctionne?
Alors, le code couleur est pratique, hein, parce que c'est aussi un code graphique. C'est surtout pour que le lecteur ne perde pas le fil. C'est vrai que je l'ai utilisé avec l'histoire de Simone Veil immortelle. C'est une façon de traverser son histoire. C'est-à-dire que quand on est en jaune, bah là, on est évidemment, c'est sa jeunesse en fait. C'est la jeunesse de Victor quand il a entre 0 et 15 ans. Donc c'est la partie jaune. La partie bleue, bah, c'est la partie contemporaine hein, où on voit bah, qu'il est professeur. On voit que voilà, c'est un homme, c'est un statut installé. On a une couleur un peu sépia. Bon, c'est la couleur un peu plus difficile, puisqu'on est en 1938 avec l'arrivée du Troisième Reich. Donc, on vit vraiment l'arrivée de ces nazis. Et puis, évidemment, la période grise. Bah, la période grise, c'est la période des camps, de la déportation. Forcément, c'est une période plus triste. Il y a des images un peu de couleur verte. C'est pour les flashbacks, puisque c'est important parfois de revenir en arrière. Mais c'est un bon procédé que les gens avaient trouvé très intéressant quand j'ai fait Simone Veil, l'immortel, et j'ai voulu réutiliser ce code pour Frankl parce qu'il me paraissait important de raconter toute sa vie. Et comme j'aime raconter une histoire dans l'histoire avec un grand H, je voulais vraiment pas commencer avec Frankl qui naît en 1900 à Vienne et puis après raconter tout son parcours. J'ai commencé vraiment quand il est déporté dans le camp de concentration à Terezin, au nord-ouest de Prague. Et donc après, bah, toute l'histoire découle. De façon aussi au lecteur de se repérer surtout dans le temps.
Alors, justement, à travers vos derniers romans graphiques, on retrouve la résilience des personnages et l'optimisme et le besoin de témoigner, bon, comme Viktor Frankl et Simone Veil, ils se ressemblent un peu. Et peut-être aussi vos personnages dans les romans de Beate et Serge Klarsfeld et dans votre dernier livre qui vient de paraître sur La rafle 10 yeux. Peut-être pouvez-vous nous en parler?
Alors c'est vrai qu'il y a une certaine résilience. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parliez de Simone et de Viktor Frankl. À part que Simone n'a jamais pardonné à ses bourreaux, alors que Frankl si. Il y a une grande similitude, effectivement, une certaine résilience à avancer, surtout à témoigner beaucoup. Simone, je sais que toute sa vie a témoigné. Elle a témoigné sur le tard, évidemment. Je crois que c'était à partir de 76. Frankl, lui, c'était vraiment à partir de 72, donc on est vraiment, pour le coup, on est à quelques années près. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a jamais été fait avec vengeance et haine. Ça a toujours été pour la justice et la vérité. Et c'est ça qui m'intéresse chez ces personnages-là. Pour moi, c'est cette résilience. C'est de se dire que je n'ai pas de haine, je n'ai pas de vengeance, mais par contre, je veux la vérité et je veux la justice. Et en fait, bah, ils ressemblent pas à leurs bourreaux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait, ils ont pris leurs engagements, ils ont témoigné, et en fait, ils ont pu vraiment, pour le coup, toucher énormément de gens et sans diffuser quelconque haine. Et c'est vrai que quand on a la haine, on n'avance pas. On n'avance pas du tout. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est quelque part, quand on fait de la bande dessinée, que ce soit scénariste ou dessinateur, on s'approprie ces personnages. Quand j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil, j'ai vu beaucoup d'humanisme, d'humanité dans ses yeux, à une grande dame. Quand j'ai été avec les Klarsfeld, que ce soit Béat ou Serge, pareil, cet humanisme, cette passion. Bah, les enfants 10 yeux, évidemment, mais ça, c'est encore autre chose. Mais on voit que ce sont des gens qui sont investis. C'est important de témoigner, c'est important de perpétuer le souvenir de tout ce qui s'est passé, pour justement qu'on n'oublie pas. Et je pense que je ressemble beaucoup à Frankl, et je ressens beaucoup aussi à Simone Veil. Frankl, bah, parce qu'il y a une espèce de résilience, puis il y a surtout cet optimisme. Moi, je sais que bah, je suis scout, hein, j'ai été scout pendant plus de 20 ans, donc forcément, quand on est scout, on voit toujours le bon côté des choses, même dans la difficulté. Et bah, je pense que j'ai cet esprit de Viktor Frankl, en fait.
Et
Je suis un
pourquoi,
Viktor Frankl.
ces sujets vous intéressent-ils personnellement? Je me permets de vous demander.
Et oui, vous avez bien raison. Alors en fait, il y a une raison, c'est que j'ai eu la chance d'être élevé par mes grands-parents. Alors j'avais mes parents, alors ça c'est encore une autre histoire. Bon, alors il y a des enfants qui ne sont pas forcément aimés par leurs parents. J'ai été élevé par mes grands-parents. J'avais une grand-mère qui était agent de liaison à Reims, dans le réseau de Libération Nord. Et j'avais un grand-père qui, lui, était dans la deuxième DD et qui avait fait la libération de Paris de Colmar. Donc autant vous dire que j'ai vraiment été biberonné à la transmission, au devoir de mémoire, surtout par ma grand-mère. Mon grand-père, lui, pour le coup, c'était quelqu'un qui racontait. Alors, j'avais quand même croisé le général de Gaulle et Leclerc, mais lui, ce qu'il racontait, c'était les combats. Alors que ma grand-mère était plus dans le genre, surtout, ne faut pas amalgamer le soldat allemand et le nazi. C'était toujours cette différence. C'était important pour elle de bien faire la différence entre le soldat allemand de base et le nazi. Comme elle me disait, il y a eu aussi des Français et des Américains, des bons et des méchants. Et donc, j'ai toujours été élevé avec cette passion de l'histoire, cette passion d'injustice. Et évidemment, quand on rentre dans la bande dessinée, on commence par des albums un peu plus classiques, populaires. Et quand on commence à acquérir de l'expérience, on a envie de raconter ses propres histoires. Et donc, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, bah, j'ai voulu raconter justement ce qui me passionnait le plus, c'est-à-dire l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, et puis surtout, bah, pourquoi 6 millions de Juifs? Parce que ça, c'était quelque chose qui m'a toujours taraudé, questionné. Pourquoi 6 millions de Juifs? Bien sûr, c'est un crime raciste, mais quand je pose la question à Serge Klarsfeld, même lui me dit, mais comment comprendre l'incompréhensible? Et ça, je trouve ça intéressant. Et ben, on se rend compte que maintenant, on ne peut plus dire je ne savais pas. Évidemment, à l'époque, quand c'est arrivé, il n'y avait pas Internet. Sauf que maintenant, on ne peut pas dire je ne suis pas au courant, je ne savais pas. Ce n'est pas possible. Donc, c'est intéressant de faire des livres comme je fais, parce que la bande dessinée, c'est un bon vecteur, c'est un bon support pour toucher les jeunes. Et c'est pour ça que je fais énormément de livres. Comme Simone Veil disait, il faut enseigner et transmettre le devoir de mémoire. Et c'est ce que je fais. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaye de faire.
Alors, vous travaillez beaucoup avec les lycéens et les collégiens, et Pensez-vous que le travail de mémoire est plus facile avec les romans graphiques?
Oui, parce que c'est abordable. En fait, c'est comme je prends toujours cette image, c'est la première clé que je donne pour ouvrir la toute première serrure. Après, à eux de se cultiver, d'aller sur Internet ou bibliothèque ou médiathèque. C'est vrai que le roman graphique, ça fait une quinzaine d'années qu'il existe, ça vient des États-Unis, il y a une partie littérature et une partie graphique. C'est un support qui peut faire plus de 200, voire 1000 pages. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément que des cases. Des fois, il n'y a pas de bulles. Et puis, il y a une réflexion, il y a une analyse aussi dans le roman graphique, et c'est plus abordable pour toucher les jeunes. Je vois Simone Veil Immortel, par exemple, quand il est sorti, ça a touché beaucoup les jeunes, parce que beaucoup de jeunes ne connaissaient pas Simone Veil. Et grâce au film, pour le coup, Simone Veil avec Elsa Gilberstein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, fait énormément de bien à Simone Veil, puisque maintenant on parle le même langage quand je me déplace chez les jeunes. Donc c'est ça qui est très, très intéressant. Donc pour ça que je mets vraiment toute ma foi dans la jeunesse, parce que même si c'est pas facile, hein, quand on voit tout ce qui se passe aux actualités, eh ben je sais que je sème et je sais qu'un jour, ben il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Et j'aime à dire surtout dans les collégiens, en troisième notamment, je dis parmi les jeunes filles, je dis, vous savez, Simone avait votre âge quand elle est arrivée sur le quai d'Auschwitz. Regardez la femme qu'elle est devenue. Peut-être que parmi vous, il y a une future Simone Veil. Et à chaque fois, j'ai un petit sourire. Et c'est ce que je souhaite, c'est que je me dis, dans cette classe, peut-être qu'il y a une future Simone Veil. Parce que point de vue politique, en ce moment, on ne peut pas dire qu'on soit gâté. Donc, je mets énormément d'espoir dans la jeunesse. Donc, c'est pour ça que j'essaye de semer un maximum de petites graines.
Et vous semez également parmi les différentes associations avec lesquelles vous travaillez, parce que il me semble que vous travaillez avec des enfants malades et peut-être vous pouvez dessiner et partager vos dessins avec eux.
Alors ça, c'est ma seconde passion, les enfants. J'en ai trois, je suis grand-père de trois petites filles. Alors c'est venu très tôt. Un jour, on m'a demandé d'intervenir justement dans une unité d'enfants cancéreux. Et là, ça m'a, je dis pas que j'ai été choqué, mais j'ai eu beaucoup de peine parce qu'un enfant, justement, ça a le sourire, un enfant, ça doit être... Il y a l'insouciance, enfin bref. Et je me dis, c'est pas normal qu'un enfant soit malade. Et donc, ça fait depuis plus maintenant, oui, 20 ans quand même, où je suis parrain de l'IME, par exemple, des enfants en situation de handicap à Lyon, à Saint-Malo. Je suis parrain à l'Arc-en-Ciel, qui est une unité d'enfants cancéreux au Luxembourg, et une autre à l'hôpital Grabois de Nancy. Et donc, je donne du temps bénévolement, bien sûr, où je me déplace pendant 4-5 jours pour chaque unité, où je passe du temps soit à raconter des histoires, soit à refaire des chambres avec des fresques, soit à dessiner tout ce que les enfants veulent, comme ça ils ont des posters dans leur chambre. Enfin, je fais vraiment tout pour eux, parce que, ou alors je récolte aussi beaucoup d'argent, comme au Luxembourg, pour l'association Arc-en-Ciel, parce que là c'est un peu plus triste, on va dire, c'est récolter beaucoup d'argent pour que ces enfants-là puissent réaliser, on va dire, leur dernier rêve. Voilà, à l'époque, bah, il y a eu des voyages en hélicoptère, il y a eu des rencontres avec les dauphins. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et c'est important aussi de donner de son temps, en fait. Voilà, ça, c'est la maladie, c'est quelque chose qui me touche. Moi, j'ai eu ma femme qui a été, alors, c'est pas une enfant, mais c'est ma femme quand même, qui a eu un grave cancer. Et j'ai été un aidant, puisqu'on devient un aidant. J'ai mis ma modeste carrière pendant un an pour m'en occuper. Et c'est là qu'on prend vraiment conscience que, quand on est malade, on est tout seul parce qu'on est aidé par personne. Et quand on peut apporter justement du bonheur, ayant beaucoup de choses positives, ben, on peut réussir à deux à vaincre la maladie. Et je peux vous dire que là, avec du recul, à l'époque, c'était mal barré. Donc voilà, mon bonheur à moi, c'est de donner vraiment des choses positives aux enfants. Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir un sourire d'un enfant. Quand il y en a un qui me demande un joueur de foot, j'aime pas le foot, mais voilà, je vais lui donner le meilleur, un bon joueur. Et là, quand je lui décroche la feuille, ben, il est heureux et il va la coller sur son mur. Et puis je sais qu'il va le regarder, qu'il va se projeter dedans. Donc c'est important aussi de donner du temps pour les autres.
Merci Pascal Bresson d'avoir été notre invité sur les ondes de Chalon Bourgogne. Nous rappelons votre remarquable roman graphique Viktor Frankl paru aux éditions Hugo BD en novembre 2023, ainsi que votre dernier ouvrage La rafle des yeux. Vous préparez également un nouveau livre sur Robert Badinter pour lequel nous espérons avoir la chance de vous accueillir à nouveau pour en discuter. Et merci pour votre travail de paix et de tolérance.
Merci, Aurore.
Merci Pascal.